Chapitre 46. Tout était sans dessus-dessous dans l'appartement. Tiroirs par terre, coussins du canapé dispersés, tables retournées. Gabriel s'avança abasourdi jusqu'à la chambre. Même désordre. Le deux pièces avait été mis à sac, mais la télé était toujours là, ainsi que le système d'enceinte et l'ordinateur dans un coin. Ce n'était donc pas un cambriolage classique. Le ou les responsables du chaos cherchaient quelque chose de précis. Gabriel s'assit sur le sommier et serra la clé accrochée autour de son cou. Puis il piocha le carnet intime de sa fille dans sa poche, feuilleta en silence ses pages gondolées. L'âpreté des dessins mit son sang en ébullition. De nouveau, il s'attarda sur les labyrinthes que Julie avait tenté de résoudre. Le dessin du monstre double, le fameux xyphopage. Il revit Julie et Mathilde piégées dans le reflet du miroir au fond de la grotte sordide. Lui à deux doigts de les toucher. Incapable de leur venir en aide. Tout ça était incompréhensible, dément. Il se redressa brusquement et balança de toutes ses forces le radio-réveil contre le mur. Il poussa un long cri. La fraction de seconde suivante, il pensa à courir et à se jeter par la fenêtre. Tout serait tellement plus simple. En finir une bonne fois pour toutes plutôt que de lutter contre des moulins à vent. Il se mit à aller et venir, furieux envers lui-même et son propre esprit qui lui avait volé 12 ans de sa vie et refusait de les lui rendre. La crise passée, il laissa son rythme cardiaque ralentir et réfléchit. Hors de question d'appeler les flics. Ils ne seraient pas aussi conciliants que Paul s'ils apprenaient sa fausse identité. Et puis, comment expliquer l'enfer de ces derniers jours sans qu'on le colle en tôle ou en hôpital psychiatrique ? Il allait lui falloir se débrouiller seul. Il entreprit d'inspecter les lieux avec plus de minutie. Son logement était petit, une trentaine de mètres carrés à tout casser. Pas de décoration, de touche personnelle, le strict minimum. Sans doute l'avait-il loué meublé. Il remit un peu d'ordre, redressa la table, jeta un œil au paquet de cigarettes et bouteilles d'alcool, du whisky et du rhum, bien entamé, ramassa la paperasse. Pas grand-chose, des factures au nom de Guffin et, malheureusement, aucune trace de ses papiers d'identité. Il alluma son ordinateur. Gabriel essaya plusieurs mots de passe sans succès. S'en remettre à la chance était inutile. Comme pour sa mémoire, le contenu de son disque dur lui resterait inaccessible. Il se rendit dans la kitchenette, ouvrit la porte du réfrigérateur. Il souleva un paquet de jambon, observa les dates sur les pots de yaourt. Rien de périmé. Tout indiquait qu'il avait effectivement vécu ici les jours précédant son arrivée à Saga. Quand son appartement avait-il été visité ? Avant ou après la mort de Wanda Gershwitz ? L'armoire de la chambre avait également été fouillée sans ménagement. Il la rangea et détecta des vêtements féminins. De la lingerie en dentelle, un pyjama en soie blanc et rose. Il renifla le parfum. Wanda était venue ici. Elle avait dû dormir dans ce lit. Il piocha, non sans contentement, un t-shirt uni bleu, un pull à col roulé anthracite, un caleçon et des chaussettes propres avant de se diriger vers la salle de bain. Les traces d'une présence féminine se manifestaient là aussi. Deux brosses à dents dans un verre, un shampoing pour cheveux colorés. Il avait vécu avec cette femme qui avait ruiné sa vie. Il imaginait à peine son état chaque fois qu'il la serrait contre lui. L'impression certainement de valser avec le diable. Il se débarbouilla sans décoller son regard du miroir. De courts cheveux grisonnants pointaient sur son crâne. Les poils juste autour de sa bouche poussaient en pagaille, lui donnant des airs de repris de justice. Il s'empara d'un rasoir, de la mousse, et fit disparaître le bouc, dévoilant une ride profonde au niveau de son menton, pareil à un coup de lame. C'était lui, Gabriel Moscato, 55 ans. C'était bien lui. Il parcourut du bout des doigts son visage sec et effilé, décela au fond de ses yeux la signature de l'homme qu'il avait toujours été, un père prêt à déplacer des montagnes. Jamais il n'abandonnerait ses recherches. Il allait tout faire pour accéder à la vérité, identifier celui ou ceux qui avaient fait du mal à Julie. Ceux-là même qui avaient dû saccager cet appartement, ces animaux qui avaient balancé un corps sur les rives de l'Arve et avaient tout fait pour l'incriminer lui. Il pensa à David Esquimet, à ses photos, au palindrome sur les murs de l'usine. Où était la place de chaque pièce dans ce casse-tête? Il alla à la fenêtre, poussa discrètement le rideau et observa la rue, les voitures, les gens qui circulaient avec leur destin en main. Et lui, au milieu de ses trajectoires, perdu dans la nébuleuse de l'oubli, incapable de s'extraire de son propre cauchemar, était décidé à se battre jusqu'au bout. Il ignorait où tout cela allait le mener, mais à ce moment-là, il n'avait qu'une seule certitude. Sa quête nordiste devait commencer chez sa mère.